Europe 1. Bonjour, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Bienvenue au cœur de l'histoire. Le nom de Florence Nightingale n'est pas évocateur pour tout le monde. Pourtant, c'est à cette Anglaise née en 1820 que les infirmières doivent leur reconnaissance en tant que profession. Sa vie tout entière dédiée à sa vocation a été un combat pour faire accepter l'idée qu'une femme puisse accéder à une profession médicale à l'égal de l'homme. Féministe avant la lettre, elle a bénéficié d'un appui inconditionnel de la reine Victoria pour mener à bien sa mission de réformatrice. C'est sa vie que je vous propose de raconter dans cet épisode en deux parties. Première partie, les caprices d'une vocation. Novembre 1854, base anglaise de Scutari à Istanbul, en Turquie. Sous la tente, où l'on ramène les blessés par dizaines, le spectacle est effrayant. Des gémissements, des râles, et la puanteur caractéristique des chairs en décomposition. Le chirurgien, mécaniquement, reproduit les mêmes gestes sur chaque soldat. Il coupe un bras ou une jambe, comme il couperait du bois. Pas le temps de réfléchir. Lorsqu'une blessure est trop grave, l'amputation est un moindre mal. Une hésitation, et c'est la gangrène, puis la mort. La pestilence infeste tout l'espace de l'infirmerie. Prendre 10 secondes pour réfléchir sur un cas et c'est 50 personnes qui mourront. Florence Nightingale, munie d'une lampe, passe de lit en lit. Elle s'approche de chaque visage, pose sa main sur une épaule ou sur un front. Ici, certes, le chirurgien est roi. Elle n'a pas son mot à dire, mais elle sait donner ce que d'autres n'ont pas. Au cœur de la souffrance, elle a compris la puissance de l'espérance. Savoir panser une plaie physique, ça tout le monde sait le faire. Mais donner son cœur à celui qui agonise pour qu'il retrouve la force de lutter, ça n'est pas donné à tout le monde. Florence Nightingale fait partie des jeunes femmes qui se sont portées volontaires pour soigner les blessés durant la guerre de Crimée. La guerre de Crimée oppose en 1853 une coalition euro-turque, anglais, français et turc, à la Russie. Le commandement a vu d'un œil circonspect ces quelques 40 éléments féminins revendiquer leur droit à participer à l'effort de guerre. Elles ne portent pas les armes, certes, mais la guerre est une affaire d'hommes. Mais la situation est grave. Dès le début du conflit, les problèmes se sont accumulés. Avant même que ne commencent les combats, 20% des soldats contractent le choléra ou la dysenterie. C'est une hécatombe. Florence a d'abord pensé pouvoir venir à bout des blessés avec 20 infirmières. Puis elle en a demandé le double. Malgré cet effectif conséquent, la mortalité dans le camp est terrifiante. En moins de 2 ans, 4000 hommes succombent à leurs blessures. Florence est une fille pratique. Elle a l'esprit mathématique. Il ne lui a pas échappé que ses décès, dans leur immense majorité, ne sont pas dus aux blessures infligées, mais à l'hygiène délétère qui règne dans le campement. L'évacuation des eaux est défectueuse. L'air n'est jamais renouvelé, faute de ventilation. Comment peut-on accepter de laisser des hommes dans ces conditions ? Au plus fort de la guerre, Florence Nightingale exige une commission d'enquête. 6 mois après son arrivée, une délégation arrive donc en Turquie, à Scutari. On se rend à l'évidence, même des gens en bonne santé tomberaient malades dans de telles conditions. Immédiatement, on fait assainir les égouts. On crée des systèmes de ventilation. En quelques semaines, la mortalité des blessés est divisé par 10. En 1856, Florence Nightingale, qui était partie d'Angleterre en anonyme, y revient auréolée de gloire. Dans toute la presse, on ne parle que d'elle. Sa notoriété, quelques semaines après son retour, côtoie celle de la reine Victoria. Celle-ci lui adresse une lettre qui constitue une véritable révolution dans cette Angleterre où le principe masculin garde la primauté sur tout et sur tous. C'est la lettre d'une femme à une femme qui manifeste la reconnaissance d'une reine vis-à-vis d'une simple infirmière concernant un fait jusque-là exclusivement masculin, la guerre. Que s'est-il donc passé pour que ce bouleversement se produise au beau milieu du XIXe siècle? Qui est au juste cette Florence Nightingale, qui était jusque-là parfaitement anonyme et qui n'avait rien pour attirer sur elle l'attention de ses contemporains? Florence Nightingale naît le 12 mai 1820 à Florence, d'une riche famille anglaise installée pour 2 ans en Italie. Ses parents ont tenu à lui donner le nom de la plus prestigieuse des cités de la Renaissance. À la fin de l'année 1820, les Nightingale regagnent leur terre du Derbyshire, dans l'est de l'Angleterre. C'est une famille unie, dirigée avec amour et fermeté par un père cultivé et profondément croyant. La famille confesse une foi alors séparée du dogme anglican en vigueur en Angleterre. On les appelle les Unitariens. C'est une religion chrétienne, mais qui a la particularité de se montrer progressiste sur de nombreux points. Au centre de cette croyance, le service des autres, et en particulier le service des pauvres. Les Nightingale financent largement les soins médicaux de la région qu'ils habitent. Ils rendent visite aux malheureux, mettent en place une prise en charge des malades. Dans l'éducation que reçoit Florence, c'est son père qui s'occupe d'enseigner les matières propres à ouvrir l'esprit. Le latin et le grec, et pour les langues vivantes, l'italien ou l'allemand. Apprentissage dans lequel toutes les valeurs humanistes sont mises en avant. On n'oublie pas chez les Nightingale que le grand-père William Smith, parlementaire pendant presque un demi-siècle, fut l'un des artisans de la liberté de culte et de l'abolition de l'esclavage. Florence a une sœur aînée, Parthénope. Leur père met un point d'honneur à leur transmettre autant que s'il avait eu des fils. L'égalité entre hommes et femmes fait partie de ses convictions. Pourtant, Florence semble plutôt mal partie. Elle est rêveuse, mélancolique, ombrageuse. Depuis son humble chambre qui ne comporte qu'un lit, un miroir et 2 tables, sans aucune décoration, elle médite des heures à sa fenêtre. Ses premiers élans la porteraient plutôt à la contemplation et au mépris des hommes. Un invalide préférera de loin la compagnie d'un chien plutôt que celle de son infirmière, car le chien ne parle pas, et plus je connais les hommes, mieux j'aime les chiens. À 16 ans, son cœur est dans la tourmente. Elle se trouve misanthrope. Le souci du pauvre l'obsède, mais elle ne voit pas d'issue aux souffrances du monde. Que faire? Pourquoi cette vallée de larmes? Comment une seule personne pourrait-elle venir à bout du mal qui écrase les hommes? Elle est revêche, rebelle. Elle accumule les provocations. Quand j'étais une enfant et que je me conduisais mal, cela mettait toujours un frein à ma rêverie. Je ne saurais dire pourquoi. Est-ce parce que mal se conduire est plus intéressant que les motivations qui amènent l'homme à un état de sereine civilité? Sa sœur, docile à l'enseignement paternel, se passionne pour l'architecture et la peinture. Elle aime Botticelli et Gainsborough. L'Angleterre n'a pas effacé l'Italie de son enfance et elle sait marier dans son goût les illustres portraitistes de son pays et les maîtres du XVe siècle italien. Mais Florence, elle, s'abîme dans les questions existentielles. Comment venir à bout de la pauvreté? Durant ses heures de tourment, elle s'applique à penser des poupées cassées. Elle ne peut accepter le fossé qui la sépare des déshérités. Pourquoi est-elle riche? Pourquoi d'autres sont-ils condamnés à vivre dans la misère? Quel sens cela a-t-il? On voit dans chaque cottage de telles difficultés qu'elles appellent la compassion. Par moments, je me dis que la mort doit être moins effroyable que la vie. Les tourments d'une âme désœuvrée trouvent souvent un terme dans l'action. En 1837, l'Angleterre subit une terrible épidémie de grippe. Florence, miraculeusement épargnée, se met aussitôt au service de son entourage. Et le fait d'aider les autres, les jours passant, va l'aider elle-même à retrouver un peu la force de vivre. Elle est de tous les secours, rassurer, donner des soins, assister les mourants. Un soir, alors qu'elle se trouve dans sa chambre, c'est l'embrasement. Elle reçoit un appel précis, concret, venu du ciel. Dieu m'a parlé et m'a appelé à son service. L'ordre catégorique s'accompagne d'une guérison. De dépression, il n'y a plus aucune trace. Son cœur est bouleversé. Elle verse des larmes de joie. Comme consumée par le feu dévorant de la foi, elle se rend auprès de chaque malade de sa famille, oubliant les repas, oubliant le sommeil. Elle a trouvé sa voie. Elle sera infirmière. En même temps que l'appel au service de l'être humain en particulier, elle se passionne pour les questions sociales et politiques. La famille a décidé de refaire un tour d'Europe. Florence Nightingale se montre enthousiaste. Elle est avide de tout connaître, de chaque pays visité, de la politique aux beaux-arts.
Si elle s'intéresse aux paysages, elle note particulièrement les lieux de pèlerinage et les institutions bénévoles. Elle s'intéresse aussi à la politique des pays qu'elle traverse et se sent solidaire du combat que livrent les Italiens, par exemple, pour l'indépendance de leur nation et sa réunification. Elle maîtrise parfaitement le français, l'allemand, l'italien, chante agréablement et joue du piano.
Les grandes vocations vont souvent de pair avec de grands excès. Libérée de la dépression, elle veut maintenant appliquer de façon concrète sa vocation dans le monde. À l'hiver 1838, elle fait la connaissance de celle qui deviendra sa meilleure amie, Marie Mole, une compatriote féministe et francophile qui tient salon à Paris. Elle aurait été incapable d'ennuyer qui que ce soit, écrit Florence à son sujet. C'est par son entremise que Florence est admise dans le salon très parisien de la célèbre Madame Récamier. Elle y rencontre les auteurs les plus brillants et les plus en vue du moment. Chateaubriand, Lamartine, Musset, Stendhal. Elle se passionne pour George Sand, dont elle lit tous les romans. Cependant, cette soif d'aborder la totalité de la vie artistique et littéraire de l'époque se trouve vite étanchée. Florence a sans doute appris beaucoup, mais aucune de ses connaissances ne lui sert à rien. Elle se retrouve seule face à ses interrogations. Un court moment, elle a pu croire que la littérature ou l'art pouvaient sauver les hommes. Elle ne le croit plus. Alors qu'elle approche des 25 ans, sa famille cherche à la marier, mais elle écarte tous les prétendants avec dédain. Quant à apprendre pour apprendre, elle a compris que ça ne servait à rien. Pourtant, l'Angleterre vient d'inaugurer le tout nouveau Queen's College qui ouvre la porte de l'enseignement supérieur aux jeunes femmes. Elle n'y prête aucune attention. « À un moment de ma vie, j'ai assouvi ma soif de faire des études et d'acquérir des connaissances, mais cela n'a pas duré. » Au terme de ce périple intellectuel qui a suivi l'illumination de ses 17 ans, elle écrit « La première chose à laquelle je me souviens avoir songé, et la dernière, ce fut le travail d'infirmière ou à défaut l'éducation, mais plutôt celle des délinquants que celle des jeunes. » Au plus profond de son cœur, il y a donc toujours cet appel. Il s'accompagne d'un étrange sentiment de culpabilité, obstiné, lancinant. Florence est comme hantée par l'idée d'une faute à expier. Elle l'exprime souvent dans ses lettres. On a beaucoup disserté sur l'origine de ce sentiment, bien sûr. Ce qui torture un être, et toujours plus mystérieux et plus attirant que ce qui le réjouit, que ce qui le rend heureux. Elle écrit à sa tante Anna « Bénis-moi, bénis-moi, je l'implore, j'ai tellement fauté. Si Dieu ne l'a pas encore fait, c'est que je ne mérite pas qu'il le fasse. » Mais on aurait tort de faire de Florence Nightingale une bigote. Sa foi est ardente, mais elle n'est ni une illuminée, ni une de ces âmes frappées d'imbécilité et qui trouvent dans la foi un masque pour cacher son indigence. C'est une âme qui cherche, qui brûle de mettre sa vie en accord avec ce qu'elle a ressenti au plus profond d'elle-même et qu'elle nomme vérité. Quel sera le destin de cette jeune femme entière et torturée? Comment va-t-elle trouver finalement à appliquer sa vocation? C'est ce que je vous propose de découvrir dans la seconde partie de cet épisode.